Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio 98 FM. C'est l'émission Femmes en Lumière qui commence, Laetitia et Myriam avec vous. Une émission qui vous présente des femmes de tous horizons et des personnalités atypiques, toutes plus inspirantes les unes que les autres. Via un témoignage à cœur ouvert, ces femmes de notre région et d'ailleurs vous partagent ici leur histoire.
Et aujourd'hui, dans l'émission Femmes en Lumière, nous avons le plaisir d'accueillir Marina Nicolati, une femme flamboyante d'énergie et qui a eu mille vies. Dirigeante, coach, conférencière, fondatrice du cabinet de conseil Caminéa, co-fondatrice de l'association Tadam, animatrice du podcast Rendez-vous avec Marina, elle incarne une alliance plutôt rare entre performance et humanité. Experte des codes de l'entreprise, du management, de l'exigence, elle sait aussi parler de confiance en soi, d'intuition, d'émotion et de vulnérabilité. Aux femmes, elle explique qu'elles peuvent être ambitieuses, légitimes et influentes sans devenir dures. Aux jeunes et adolescents, qu'ils doivent se comprendre eux-mêmes avant de chercher à réussir. Avec sa façon de parler d'intuition, d'émotion et de sens, non pas comme des faiblesses, mais comme de vrais leviers de puissance, la recevoir dans Femmes en Lumière était pour nous une évidence.
Bonjour Marina.
Bonjour à vous.
Alors écoute, nous sommes très heureuses de te recevoir aujourd'hui. Pourrais-tu te présenter en quelques mots ?
Eh bien déjà, merci pour cette présentation, parce que franchement, jamais j'aurais pu le dire moi. Alors qu'est-ce que j'ai envie de dire ? J'ai envie de dire que je suis née en Lorraine, dans une famille très modeste, il y a 63 ans. Je suis née en 1963 et mes grands-parents étaient immigrés italiens. Voilà, c'est pour ça que je m'appelle Marina Nicolati. Je parle pas très bien italien parce qu'on ne me l'a jamais appris. Et j'ai envie de dire que j'ai toujours aimé l'école. Ça me caractérise parce que j'ai eu envie toujours d'apprendre. Et l'école a été pour moi un levier formidable. Je suis un pur produit de l'école républicaine. Et à 18 ans, j'arrive à Paris pour poursuivre mes études.
Alors, comme tu le dis, tu es une enfant de l'école républicaine. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes études ?
Alors oui, très bien. Donc, je suis bonne élève. J'ai pas le choix. Mes parents me disent, tu travailles à l'école. Donc, et j'ai de la chance parce que j'ai de la mémoire. Donc, je suis plutôt bonne élève. Et quand il s'agit de trouver son orientation, moi, je suis fan de maths. Un peu amoureuse de mon prof de maths, il faut le dire. Et donc, je décide d'être prof de maths.
Ok.
Et en seconde, on me dit, mais on n'aura pas besoin de prof de maths quand ça vous serait en âge de travailler, donc faites autre chose. Alors là, le vide intersidéral. Et puis, je me retrouve à Paris, à la Salpêtrière, parce que je décide de faire un diplôme de psychomotricité. À l'époque, mes profs me disent, vous devez faire une école de commerce. Moi, il n'est pas question. J'ai envie de travailler dans le social. D'ailleurs, je le dis. J'ai envie de travailler dans le social. Et puis, mon amoureux de l'époque, Bertrand, que je remercie, c'est grâce à lui que je suis venue à Paris. Il fait des études à Paris, donc je le suis. Et je me retrouve à la Salpêtrière.
Et alors, comment t'es venu ce choix d'être psychomotricienne ? Parce que c'est pas forcément connu de tous à cette époque, en plus, notamment.
Et puis, quand on pense au social, c'est pas le premier truc qui vient.
Tout à fait.
Non, mais j'étais un peu dans le domaine un peu paramédical. Enfin, bon, puis j'y connaissais rien. Puis j'avais pas vraiment de moyens de me renseigner. Enfin, et puis Paris. Alors, je m'étais dit, kiné, ergothérapeute. Et puis, il va à Paris. Et donc, je me dis... psychomotricité, c'est pas mal quand même.
Et alors, donc, tu te lances dans des études de psychomotricité, et puis à un moment, tu décides de devenir commerciale.
Qu'est-ce qui se passe ?
Ouais, qu'est-ce qui se passe ? Dis-nous
tout. En fait, les études de psychomotricité, très vite, bon, j'ai adoré mes études, mais très vite, je me dis, mais c'est pas fait pour moi, en fait. Sauf à la fin de mes études, je fais un stage avec des enfants sourds, et là, je me dis, mais c'est extraordinaire, rééducation des enfants sourds en mathématiques. Et là, ça allie les maths... le social, mais malheureusement il y a un poste en France et donc je peux pas faire ça. Et à l'époque,
c'est-à-dire il y a un poste en
France,
il y a
un seul poste, il y a une seule personne qui fait ça en France avec qui je fais mon stage d'ailleurs, mais il y a pas de poste du tout. Puis à l'époque, la psychomotricité, le diplôme il a 5 ans, c'est très récent, donc non, j'ai pas de poste. On me propose un poste avec des débiles mentaux, moi j'ai rien contre eux, mais c'est pas mon truc. Moi, j'aime développer les potentiels. Peut-être on va le voir. Et donc, je me dis, je vais répondre à une petite annonce. Bon, je vous passe les détails parce que
bien sûr.
Mais je me retrouve, oui, commercial grand compte après avoir fait quelques petites choses avant. Parce que on me dit, tu devrais faire du commercial.
Alors, dans quelle entreprise,
du coup? Alors, je rentre dans le groupe Page Jaune.
Ok.
Donc à l'époque, c'est le Google de l'époque quand même.
Bien sûr. Oui, c'est ça. Mappy, tout ça.
Voilà. Mmh. À l'époque, les clients affluent. Alors j'ai pas connu la folle époque, mais malgré tout, je me retrouve dans ce contexte. En fait, je suis assez audacieuse. C'est-à-dire que je peux pas dire j'ai peur de rien, mais on me dit il y a un poste. Je dis ok, j'y
on
vais.
On y va, on tente.
On y va, on tente de toute façon. C'est ce que je risque.
Et alors, à quel moment tu as senti que quelque chose n'était plus aligné et qu'il fallait que ça change?
Alors, j'ai donc cette carrière commerciale. Très vite, je me rends compte que il me manque. J'ai des lacunes quand même parce que je me retrouve face à des clients qui me parlent bilan, passif, actif, machin, fond de roulement. J'y connais rien. Donc, je me dis faut quand même que je réfléchisse à ce que je vais faire plus tard. Je fais un bilan de compétences qui m'oriente, qui me dit vous avez le parcours d'un jeune diplômé de grande école, donc faut que vous refassiez ça, quoi. Et donc je décide, à l'époque j'y connais rien, encore une fois j'ai la chance du débutant, de l'inconscient, je sais pas, je me dis HEC a dû penser à des gens comme moi, donc j'appelle HEC. Franchement, j'ai aucune info.
T'as quel âge à ce moment-là?
J'ai 30 ans, 27, 28.
Okay.
Et donc, HEC me dit, on a pensé aux gens comme vous qui avaient travaillé, mais qui n'avaient pas forcément le diplôme adéquat. Là, c'est un changement majeur dans ma vie.
Donc toi, tu reprends les études d'HEC?
Je reprends les études, j'aime l'école.
Ok.
Moi, j'ai fait des études
30
toute
ans,
ma vie.
30 ans, on repart à HEC, quoi. Normal.
Ouais, je repars à HEC. J'ai une fille, ma fille Julia, qui a 6 ans.
Ah oui.
Et donc, je repars habiter sur le campus. Son papa s'en occupe. Avec beaucoup d'amour.
Waouh.
Et donc je repars sur le campus, je vais là-bas, tout est possible.
Ouais. Pour combien de temps? 5 ans?
18 mois.
Donc c'est une formation vraiment courte.
C'est une formation courte.
OK.
Et qui courte quand même,
un an et demi. Ouais.
Mais qui regroupe tout et qui me permet de discuter avec toutes les fonctions de l'entreprise.
Et alors qu'est-ce qui se passe après le diplôme?
Alors après le diplôme, j'ai envie d'avoir un deuxième enfant et donc je repars quand même dans la structure qui m'a accueilli pendant un certain temps. Je suis allée aussi à HEC parce que je me suis un peu frittée avec mon patron, il faut le dire, enfin okay. Voilà, et donc là je vais revoir cette structure, mon N+3 qui me dit, écoutez Marina, on a bien compris que finalement ce patron c'était pas le bon, et donc on vous propose son poste. Raccourci, hein.
Ouais.
Là mon ego
trop
bien
content
de lui dire, je vous l'avais dit, maintenant bon, et vous me donnez le poste. Ouais. Alors il me dit aussi, si je vous redonne ce service dans lequel j'étais, où j'avais grandi, les grands comptes, et il me dit, puis si ça marche pas, je ferme.
Donc la pression, d'un côté heureuse de prendre le lead, mais une pression quand
gros
même.
Challenge, quoi.
Et tu as quel âge? 31, ouais, 32?
J'ai 32 ans.
Ok.
Ouais, c'est ça, 32. Un peu plus, 33 peut-être. Bon, bref, j'y retourne, oui, je retrouve mes amis de l'époque. Ça m'a beaucoup aidée, en fait. Tout ça m'a, toute ma vie, ça m'a aidée pour après tout ce que j'ai fait.
Ouais.
Quand j'ai fait des formations de management, j'explique que prendre un poste dans une structure où on a été soi-même junior, c'est pas la même chose que d'arriver dans une structure déjà faite. Bon, voilà. Après quelques années, pareil, j'ai une carrière, encore une fois, qui marche bien. Je prends un poste de directeur marketing et je prends un poste qui a été vraiment majeur pour moi. Je prends une direction générale, ce que j'ai toujours voulu faire. J'en avais marre qu'on me dise ce qu'il fallait que je fasse. Et je me disais, je sais mieux que tout le monde.
Tu es dans quelle entreprise, là, du coup?
Je suis toujours chez Page Jaune.
Toujours chez Page Jaune.
Et on me propose de prendre un poste de directeur du développement, puis un poste de directeur général. Et je prends la direction générale de Mappy. Mappy.com, qui, à l'époque... C'est quand même
le Google de l'époque,
le Google Maps de l'époque.
Oui.
Et donc, mais à un moment donné, je suis quand même rattrapée, et ça c'est important, je suis rattrapée parce que cette carrière comme ça un peu fulgurante, ça enlève les pieds sur terre. Même si je les ai beaucoup, je suis née dans une famille très modeste, je sais ce que c'est, mais je pense que je pourrais m'envoler un peu, puis devenir un peu bête.
Ouais,
et là, mon corps me rattrape et on me découvre une maladie auto-immune. Et là, franchement... quel âge j'ai? Alors, je l'ai su plus tard, parce que pendant 15 ans, les médecins m'ont caché ce que c'était. Mais on me découvre ça, j'ai une trentaine d'années. C'est à peu près à la même époque qu'HEC, mais on me dit pas.
D'accord.
Donc alors, ok, donc tu découvres que tu as cette maladie.
Je découvre plus tard,
et ça te fait...
quand je suis chez Mappy, quand je suis directrice générale. Et là, je me dis, ok, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Parce que ma vie, elle est en risque à l'époque. Elle est très en risque. Et donc, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? J'ai deux enfants, deux filles, je veux les voir grandir. Qu'est-ce que je fais, en fait? Et puis là, bah, il y a un concours de circonstances. Ils sont plus tout à fait d'accord avec la stratégie que je veux mettre en place. Ou je ne suis pas d'accord avec la stratégie qu'ils veulent mettre en place. Et je décide de partir.
D'accord.
Et là, quand je pars, qu'est-ce que je fais? Là, c'est la première question. Qu'est-ce que je fais?
Et alors, qu'est-ce qui se passe?
Et là, je décide de créer un cabinet de conseil. C'est là où je crée Caminéa.
Oui, c'est ça. Ok. Et alors donc, mais qu'est-ce qui te pousse à, parce que donc Caminéa, hein, tu vas nous expliquer, c'est un cabinet où tu vas accompagner finalement les cadres, les dirigeants. Qu'est-ce qui te pousse à faire ça?
Alors à l'origine, Caminéa, c'est pas ça du tout. À l'origine, moi, je sors de MAPI, de l'internet. C'est le début d'internet. Je veux accompagner les entreprises à faire ça, en fait. Moi, je développe les potentiels. Donc, et puis coup sur coup, trois personnes me demandent de les accompagner à titre personnel. En fait, la vie, elle est faite de rencontres. Et ces rencontres, bah, où vous prenez les mains qu'on vous tend, où vous y allez, où vous y allez pas, bah.
Donc on te demande du coaching.
On me dit, ça serait bien que vous m'accompagniez. Et je dis, mais je suis pas coach, en fait. Ouais. Donc je me forme au coaching. Et puis, je continue de les accompagner. Jusqu'en, là, on est en 2012. Là, c'est un moment très important dans ma vie parce que je lis un article qui dit que chaque année, en France, 150 000 jeunes sont déscolarisés. Ça, c'est, moi, je suis dans le monde de l'entreprise, du business, j'aime bien, ça marche. Mais là, ça me ramène à qui je suis profondément, c'est-à-dire une enfant qui a réussi grâce à l'école. Et je vois ça et je me dis, mais Marina, il faut faire quelque chose. Bon, j'ai ce côté un peu inconscient, audacieux mais inconscient. Je me dis, encore une fois, je me dis, mais moi, je sais pourquoi ils quittent l'école, ces enfants. Je connais rien, mais je sais.
Ah, mais l'intuition.
Le pouvoir de l'intuition, oui. Et puis le pouvoir un peu de la conscience. Et je me dis, mais en fait, s'ils savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard, ils restent pas à l'école. Et c'est pour ça qu'ils quittent l'école, alors ces enfants.
Voilà. Alors ça, on va en parler tout à l'heure parce que tu effectivement, donc tu vas t'engager, tout ça. Bon, ça fait partie d'une de tes vies, de tes multiples vies. On va en parler. Avant ça, quand même, je voudrais juste qu'on se recentre un petit peu sur cet accompagnement de cadres et de dirigeants, quand même. Et moi, j'aimerais bien savoir comment tu as vécu cette expérience en tant que femme. Et puis voilà.
En tant que femme pour accompagner?
Oui, pour accompagner des cadres et dirigeants.
Bah, j'aime pas trop quand on me pose la question en tant que femme. Ouais. Parce que je suis un être humain.
Ben oui.
Donc je suis une femme. Alors qu'est-ce qui va faire ma différence? Je pense que tout au long de ma carrière, ce qui fait ma différence, déjà, j'ai été formée, je suis psychomotricienne. Donc j'ai une appétence pour l'humain, j'ai une appétence pour la psychologie, j'ai une appétence pour le corps. Et je vais accompagner les gens toujours en fonction de qui je suis. Et donc je vais les accompagner aussi par rapport à ce que moi j'ai vécu et à ce que je vois chez eux qui peut leur manquer. C'est à ce moment-là que je crée aussi le concept de management sourire, parce que moi, manager, ça a été des expériences fabuleuses, j'ai adoré.
Alors c'est quoi ce management sourire? Moi, je ne connais pas.
C'est une façon de dire que comment on va avoir de la joie et comment on va donner de la joie et comment on va faire que la performance, pour moi j'ai un slogan, c'est joie plus sens égale performance. Ben voilà, et je l'ai vécu quand j'étais au grand compte.
Ouais, c'est l'enthousiasme, c'est la définition de l'enthousiasme en fait. Hein. C'est
peut-être.
C'est croire en ce qu'on fait et mettre une énergie positive et communicative. D'accord. En fait, le sens de ma question, c'était est-ce que à l'époque, on ne t'a pas fait sentir, tu vois, que parce que tu étais une femme, tu étais moins légitime à accompagner des dirigeants.
Non.
Tu vois. Et voilà, parce que malheureusement.
Oui, mais peut-être qu'on me l'a dit, mais que je l'ai pas entendu.
Et t'as pas écouté.
Bon,
Et ça a été très bien.
Très honnêtement, j'ai été DG. J'avais fait HEC. J'avais les codes.
Sur le papier, il y avait la légitimité
et puis
qu'il fallait.
Après,
quoi.
Moi,
ne serait-ce que ça.
Adoré faire ça. Franchement, je me souviens, je suis rentrée un jour et puis j'ai dit, mais je crois que je pourrais payer pour faire ça.
Non, mais nous, on adore entendre ce genre de discours. La question, c'est pas pour entendre dire, effectivement, parce que, tu vois, pas du tout, au contraire. Tu vois, nous, on adore aussi entendre des femmes qui nous disent, c'était pas un sujet pour moi.
Non.
Et peut-être que, donc, ça a roulé.
J'ai une grande fille, Julia, qui est extrêmement militante et qui me dit, mais maman, quand même, tu dis que t'as été dans un monde d'hommes. Et c'est vrai, j'étais la seule directrice d'agence en France et j'ai pas senti ça. Mais peut-être que je l'ai pas senti, que ça existait, parce que franchement, c'est vrai, j'ai des souvenirs
de remarques un petit peu peut-être à posteriori.
Elle est mignonne. Mais dans le domaine commercial, c'est une grande chance. Ouais, on fait ses preuves par les chiffres.
Ça, c'est ça.
Ok. Ouais,
d'accord.
Donc, on peut dire ce qu'on veut.
Mais si, et là, si derrière, t'as atteint les objectifs.
Oui. Et là, je voudrais remercier ma première chef, Feu. Quand je suis arrivée au Grand Compte, donc comme commerciale, et que j'y connaissais quand même pas grand-chose, mais j'avais sans doute quelque chose en moi, cette qualité relationnelle qu'elle a vue, elle m'a dit, je vous jugerai pas sur une première année. Alors là, j'ai dit, si je suis pas jugée sur les résultats, j'y vais, quoi.
Ouais, top. Génial, on adore ça. Merci beaucoup, Marina. C'est le moment de faire une première pause musicale, et on se retrouve juste après. À tout de suite.
I'll smile. It takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Nous sommes de retour sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière, l'émission qui met en avant des femmes inspirantes de notre territoire. Marina Nicolati est notre femme en lumière du jour. Alors Marina, selon le nouveau rapport des apprentis d'Auteuil, paru en mai 2025, plus de 75 000 jeunes décrochent et quittent le système scolaire sans diplôme en France. Par ailleurs, on estime aussi que 21% des élèves sont considérés comme étant à risque de décrochage scolaire en France et qu'on a même un pourcentage qui atteint les 33% en lycée professionnel. Qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie à un moment de ta vie de t'engager aussi fortement auprès des jeunes et des adolescents, pardon?
Ben, je rappelle que l'école a été pour moi magique. D'abord, j'ai aimé l'école. J'étais la dernière de trois enfants, donc j'ai râlé parce que j'allais pas à l'école et que les autres y allaient. Et quand je vois que tous ces jeunes ne réussissent pas, ne continuent pas à l'école, j'ai envie de faire quelque chose. Enfin, je me dois de faire quelque chose.
Parce que là, aujourd'hui, donc, on a 75 000 qui décrochent.
Il y en a plus, beaucoup plus.
Ouais.
Moi, le chiffre que j'avais à l'époque, il était à 150 000. Et je pense qu'aujourd'hui, on en a beaucoup plus.
Donc, à l'époque, c'était, donc tu dis, 2012.
C'est 2012. C'est ça, je lis cet article en 2012 qui dit que 150 000 jeunes quittent l'école, c'est-à-dire sans diplôme,
ouais, c'est ça.
Avant 16 ans. Parce que l'école est obligatoire à l'époque jusqu'à 16 ans. Et on sait encore aujourd'hui, un jeune qui quitte l'école, sans diplôme, il va coûter à la société 230 000 euros pendant toute sa vie. Mais surtout, c'est des talents gâchés. C'est quelque chose qui est inacceptable. On est en France. Et c'est de pire en pire aujourd'hui.
Et tu penses qu'on ne peut pas réussir sans diplôme?
Alors, on peut réussir sans diplôme. Enfin, on pouvait, je ne sais pas aujourd'hui si on peut encore réussir sans diplôme. Ce qu'on sait, c'est factuel, un jeune qui n'a pas le bac a deux ou trois fois moins de chances d'avoir un job. C'est les chiffres. Les chiffres sont là, chiffres du gouvernement, on le sait. Donc c'est pour ça, à un moment donné, on a dit on veut que tout le monde ait son bac. Mais au fond, qu'est-ce qui va faire qu'on va être employable aujourd'hui? Aujourd'hui, l'entreprise, elle ne peut que vous aider à être employable.
Oui, parce que du coup, c'est quand un adolescent, il décroche, au-delà de ce que ça dit de lui, parce que du coup, il n'arrive pas à rester dans un système.
Exactement.
Qu'est-ce que ça dit aussi du système social, du système de notre société?
Exactement. Avant, moi, quand j'étais petite, les jeunes qui ne réussissaient pas à l'école, ils allaient à l'usine. Mm-hmm. C'était simple, ils avaient un job. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Donc je vais pas m'apesantir parce que en plus sinon ça va me. Mais on va pas rester là-dessus. Mais on n'a pas de solution. Donc aujourd'hui notre job, le job de la société, c'est de permettre aux jeunes d'avoir le choix. Et donc le choix, c'est aller à l'école et d'y rester. Et il y a plein de raisons. Il y a pas que.
Tu t'engages du coup, parce que dans ma question, il y avait vraiment. Donc on a compris ce qui t'a donné envie, c'est que t'as eu un déclic de 150 000 jeunes sur le papier. Et du coup, comment t'as décidé de t'engager? Qu'est-ce que t'as fait?
Comme d'habitude, quoi. Ouais. Je me suis dit, il faut faire quelque chose. Donc qu'est-ce que je fais? J'y connais pas grand-chose quand même. Donc je crée l'association à l'époque. Elle s'appelle « Ce que je veux faire plus tard ». Parce que mon sujet, c'est « S'ils savent ce qu'ils veulent faire plus tard, ils resteront à l'école ».
Ça nous intéresse. Parce que, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, j'imagine qu'il n'y a pas qu'une histoire de capacité, en fait, dans cette affaire. Il y a probablement aussi une question de confiance en soi.
Je ne le sais pas à l'époque.
Et voilà. Comment on fait pour aider un adolescent à se projeter quand on lui a fait croire qu'il était bon à rien, quand il a plus envie de rien, quand il a perdu toute motivation?
Exactement.
Tu vois,
juste pour faire le lien, c'est-à-dire que je me dis faut faire quelque chose, et puis je mets deux copains autour de la table, et puis je me dis faut le faire pendant les vacances scolaires, et puis ma fille la plus jeune Clara, elle a 14 ans, je me dis faut le faire pendant une semaine parce que les parents ils font quoi quand leurs enfants sont en vacances, et je me dis on va leur apprendre à se connaître. C'est mon premier sujet. J'ai pas cette notion de confiance en soi. Vous l'avez compris, moi je suis plutôt quelqu'un qui a confiance en moi.
Oui.
Je vois pas où est le problème. Je le vois pas sur l'instant. Et donc pendant une semaine, je les mets dans mon salon.
Dans le salon.
OK, tu les accueilles chez toi?
J'appelle mes copines, puis je dis ouais, j'ai envie de faire un truc là pour les ados. Oh, mais c'est bien Marina, je vais te confier mon fils, ma fille. Donc je me retrouve avec 12 jeunes.
Et tu dis tu t'appelles ça ce que je veux faire plus tard, tout simplement.
Et ça consiste en quoi du coup? On est dans le salon, qu'est-ce qu'on fait?
Et voilà. Et à l'époque, la chance c'est que je suis avec mes deux amis, Patrick et René, et il y en a un qui travaille beaucoup autour du corps et l'autre qui travaille sur la compréhension de soi. Donc on se met là et puis moi je vais faire le lien et puis on a au début, c'est très simple. On a une semaine avec des temps corps et des temps tête. Et puis, on fait quoi? Puis, on vit les choses.
La tête et le cœur. Et va venir le cœur. C'est ça, parce que... Oui.
Donc, à la fin de la semaine, ces jeunes qui, le lundi matin, me disent « Marina, mais moi, j'ai pas du tout envie d'être là. » Enfin, tu te doutes bien que c'est les vacances. Moi, j'ai pas envie d'être là. J'ai envie d'être avec mes copains. Et là, on se regarde avec mes deux potes et puis on se dit, au moins, on sera ensemble. Et le vendredi soir, ces mêmes jeunes disent, mais moi, je veux revenir, il faut le faire pour tout le monde, je veux redoubler, il faut que tous mes copains le fassent. Mmh. Et les parents après qui me disent, mais Marina, leur vie a changé. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui s'est passé?
Là, tu prends conscience que tu tiens quelque chose, quoi.
Oui, puis j'ai aimé. Parce que si j'ai fait ça, c'était pour voir si j'allais aimer être avec les ados. Mmh. Parce que moi, j'en ai deux à la maison, des ados. Et je vois leurs copains et leurs copines et j'aime bien. Mais moi, je viens du monde du business. Et puis, j'ai aucune crédibilité dans tout ça. Sauf de dire, je vais apporter aux jeunes ce qu'on apporte en coaching, en fait.
Et j'ai une question, parce que dans ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de bilan de compétences pour les adultes, mais est-ce que ça existe pour les jeunes? En fait, je m'interroge. C'est exact. Même en 2012, est-ce que ça n'existe, ça
non,
existe pas?
C'est-à-dire qu'on ne se pose pas ces questions. On se pose la question des capacités. Oui. T'es bon en maths, tu fais une école de commerce.
C'est le conseil d'orientation, quoi. Hein.
Il n'y a pas vraiment de... Ouais.
Alors que je peux être bon en maths et être une star dans le design.
C'est ça, être hyper créatif.
Hyper créatif.
Et bien sûr.
Et des exemples comme ça. Alors, on a touché près de 100 000 jeunes. Donc, exemples, j'en ai, mais pléthore. Mmh. Mais ces 12 jeunes qui viennent là me montrent la voie. Déjà, je vois cette solidarité qui est entre eux. Mmh. Je vois cet amour qui est entre eux. Je vois ce qui se passe dans leurs yeux quand ils comprennent comment ils fonctionnent. Aujourd'hui encore, 12 ans plus tard, 13 ans plus tard, c'est la même chose.
Ok. Et alors, ta dame?
Ta dame,
donc,
en fait.
Parce que ça devient donc une méthode au final. tu vas creuser tout ça et tu finis par développer une vraie méthode.
En fait, ce qui se passe, c'est que les 12 jeunes là.
Ouais.
Moi, j'ai jamais voulu faire
les cobayes.
Puis j'ai jamais voulu faire quelque chose pour des happy few. Moi, je viens de l'école républicaine. Je veux que tous les jeunes en profitent. Moi, mon objectif très vite, c'est 500 000 jeunes. Parce qu'à 500 000 jeunes, on a un point de bascule. Mmh. Et donc, mes copines me disent, parce que je suis aidée de partout, tout le monde a envie d'aider.
Ouais, tu as la mairie qui te soutient, les écoles.
Non. Alors là.
C'est intéressant, du coup, de voir aussi qui t'accompagne.
Au début, c'est les gens qui travaillent avec moi et qui se disent, faut faire quelque chose pour les jeunes. Et donc, très vite, on se dit, donc moi, je veux former des gens. Et puis, très vite, on se dit, faut aller dans les écoles, en fait.
Ouais.
Et là, pareil, des rencontres, et quelqu'un me dit, moi j'ai fait la journée nationale des jeunes, tu devrais t'inscrire sur ma plateforme. Donc je m'inscris sur la plateforme, et Peggy, une prof, m'appelle. Et elle me dit, bonjour, j'ai vu que vous pouviez intervenir dans les classes, donc moi j'ai une classe de primo-arrivants, de 3 UP2A, me dit-elle, je sais pas du tout ce que c'est. Et je lui dis, oui, on va venir, etc. Alors je lui dis, mais c'est quoi? Elle me dit, c'est des jeunes qui arrivent en France et qui parlent pas français. Puis à un moment donné, quand même, mes synapses se mettent en place et je lui dis, mais s'ils ne parlent pas français, ils ne comprennent pas non plus le français, ça va être compliqué. Elle me dit, oui, mais on se débrouille. Et on se débrouille, on y va. Et on passe 3 heures, les larmes montent encore aux yeux. C'est-à-dire qu'on passe 3 heures magnifiques avec des jeunes qui parlent à peine français, mais qu'on fait monter sur scène pour faire de l'impro. Wow. Parce que ta dame, c'est la tête, une méthode de compréhension de ses motivations. Le corps, on fait des jeux d'énergie, de l'impro, on les met sur scène et du cœur, parce qu'on a 4 accords de fonctionnement qui vont faire que les jeunes vont être en sécurité et s'exprimer.
Super. Et donc ça, c'est la méthode qui découle de l'association.
Voilà. Et au bout d'un moment, les profs nous disent, mais on veut être formés. On se dit, oui, ce que je veux faire plus tard, ça marche plus. On change de nom. On se fait encore aider par une Sabrina qui fait du marketing et qui me dit, OK, on va travailler sur l'archétype de la magie. Mmh. Parce que tout le monde dit, mais ta dame, ce que je veux faire plus tard. Puis ta dame, c'est magique. Mmh. Moi, je me considère un peu comme une magicienne parce que j'adore les transformations. Mmh. Et donc, ça s'appelle ta dame parce que on va aider les jeunes à mieux se connaître, à prendre confiance en eux, ce qui sont les deux mamelles de
je m'oriente. Donc c'est ça en fait, qui va créer les vraies transformations.
Oui.
C'est
l'expérience. En fait, les jeunes, ils vont. Si je dis à un jeune, tu peux réussir à faire tout ce que tu veux, ça va rester lettre morte. Sauf que quand il passe sur scène, qu'on lui donne un micro et que tout seul il va traiter d'un sujet, parce qu'on va lui donner un sujet et qu'il va l'expérimenter, il va comprendre quelles sont ses motivations et là où il est talentueux, et les autres vont lui dire, et nous on va lui dire, ça change tout. Que ce soit 3 heures, 3 jours ou 5 jours.
Oui, donc
il y a un
ça,
avant et un après.
Donc c'est en ça quand tu dis tête, corps, cœur. Donc ça c'est passionnant. Donc ça veut dire que souvent on dit quand on veut on peut. Et on voit que c'est parfois un petit peu réducteur, quoi. On a
beau. C'est pas si simple, mais c'est un peu ça aussi.
Oui, sauf que tu nous dis, toi, tu vas plus loin. Tu nous dis, OK, déjà, faut que ça passe par la tête. Déjà, vouloir savoir de quoi j'ai envie, admettre, accepter, peut-être ça. Et puis ensuite, va passer par l'expérience du corps pour qu'il y ait une, ça se matérialise d'une manière ou d'une autre. Et puis les retours des gens qui vont m'encourager, qui vont, eh ben, ça va faire vibrer un petit peu. Là, et ça va me mettre en sécurité et me montrer que, bah oui, je peux, je suis capable, quoi.
Alors moi, j'ai une question, à l'heure des réseaux sociaux, ça fait quand même 12 ans que tu as créé l'association. Est-ce que tu as vu une différence avec, on sait que les jeunes aujourd'hui sont quand même ultra connectés. Est-ce que tu as senti une différence ou est-ce que tu as adapté aussi ta méthode?
Alors évidemment, on voit des différences énormes. Bon, moi, vous le savez, hein, j'ai confié la direction générale à cette association il y a 2 ans, à Béatrice, une femme formidable qui a repris le flambeau avec courage et brio. Et déjà à l'époque, je sentais la différence, beaucoup plus de violence, beaucoup plus de jeunes qui ont peur de parler. Donc nous, on les met en sécurité. C'est pour ça qu'on a 4 accords de fonctionnement qui font qu'ils doivent être en sécurité. Sinon, si je ne peux pas m'exprimer, je ne peux pas être qui je suis. C'est pas possible. Or nous, ce qui nous importe, c'est ça. Donc oui, il y a une différence. Mais déjà à l'époque, il y avait des réseaux sociaux. Ce qui a vraiment, vraiment changé, je trouve que c'est de plus en plus de violence. Et des jeunes, parce qu'on va aussi dans des quartiers très difficiles.
Tu veux dire de violence, mais pendant ton accompagnement,
on sent qu'ils sont dans un monde de violence.
Il y a un climat, oui.
Et donc nous, on a 4 accords de fonctionnement: la vraie bienveillance, l'écoute, la co-responsabilité et la confidentialité. Et on voit que ces accords de fonctionnement sont de plus en plus difficiles à maintenir. Les poser, c'est une chose, et c'est le job de ta dame. Moi, quand je forme, parce qu'aujourd'hui, je forme les nouveaux révélateurs et révélatrices de talents, je leur dis, vous pouvez faire des tas de choses. Si ces 4 accords de fonctionnement ne sont pas en place, vous faites pas de ta dame. Et vous n'aurez pas cette transformation. Parce que quand vous êtes tout seul devant 15 personnes, devant la moitié de votre classe, vous êtes obligé de parler devant tout le monde, s'il n'y a pas de la bienveillance, ça marche pas. Bien et donc, sûr. On va faire aussi, il y a tout un travail à faire pour créer ce monde bienveillant, cet espace de sécurité.
Et oui. Et alors, si tu pouvais transmettre une seule compétence de vie, je sais que tu vas détester cette question, une seule compétence de vie à tous les adolescents, laquelle tu choisirais?
Une compétence que j'aimerais qu'ils aient?
Ouais, une compétence de vie, tu vois.
J'ai envie de dire l'amour, la bienveillance. J'ai envie de dire cette compétence qui est « je m'ouvre à l'autre
ouais. ». L'empathie, probablement.
L'empathie, mais pour avoir de l'empathie, il faut pouvoir d'abord être empathique vis-à-vis de soi. Nous, toutes les règles de fonctionnement qu'on a, c'est d'abord vis-à-vis de soi. Je suis bienveillant vis-à-vis de moi. Ouais. Et ça, c'est une grosse, grosse difficulté que les jeunes ont. Parce que la capacité de dire « je suis nul, j'y arriverai jamais »,« non, mais c'est pas pour moi », c'est ce qu'on va retrouver chez les femmes.
Les adultes, oui.
Ah ben, on va retrouver ça chez les adultes. En fait, moi, je forme les gens.
On va en parler après.
Du coup, l'amour et l'ouverture aux autres.
Oui.
Le lien.
La qualité relationnelle.
Super. Eh ben, merci beaucoup, Marina. C'est le moment de faire une seconde pause musicale et on se retrouve juste après.
La question n'est pas que tu sois un loser, mais si tu comptes le rester, tu peux percer l'excellence puis le manifester. Personne pour t'encourager, tant que t'as pas fait tes preuves. De l'autre côté du fleuve, tu me trouveras à l'arrivée. Les meilleurs, on l'aura toujours été. Nous avons les réponses avant que la foule ne règle tout par l'épée. Hommes ou femmes, ce que nous sommes, nous l'étions avant que ça devienne vrai. Au-dessus du deuxième trait. Hier n'était pas meilleur. Ça peut paraître étrange, on a toujours été les meilleurs. Quoi qu'ils disent, hier n'était pas meilleur. Ça peut paraître étrange, on a toujours été les meilleurs. Les imposteurs sont pétrifiés, sur nous va te renseigner, la légende est vérifiée. Je trace, vous laisse derrière tel un pionnier. En avance, les meilleurs partent les premiers. Au début tu as tort, à force d'essayer. Un peu de poussière à mordre, c'est le prix à payer. On aime les meilleurs jusqu'à ce qu'ils tombent. Attendu au tournant, adulé dans la tombe. Hier n'était pas meilleur. Ça peut paraître étrange, on a toujours été les meilleurs. Quoi qu'ils disent, hier n'était pas meilleur. Ça peut paraître étrange, on a toujours été les meilleurs. C'est comme ça.
IDFM, 98FM.
Vous êtes sur IDFM Radio et aujourd'hui dans l'émission Femmes en Lumière, nous recevons Marina. qui est notre femme en lumière du jour. Alors Marina, tu entames donc une nouvelle étape désormais. Là, tu nous as beaucoup parlé des jeunes, des adolescents, avec la méthode Tadam qui fait des miracles, qui fait des merveilles en tout cas. Et donc là, tu t'engages maintenant auprès des femmes. Selon toi, qu'est-ce qui empêche encore beaucoup d'entre elles d'oser prendre leur place?
Je pense que ce qui nous empêche de prendre notre place, notre juste place, c'est toutes ces croyances qu'on a construites au fil du temps, depuis tout petit. Si, quand je suis petite, on me dit « arrête de prendre de la place, arrête de te faire remarquer », ça va être difficile de prendre la place. Si, depuis que je suis toute petite, je me dis « je suis pas à la hauteur », et ça, c'est sournois. Les croyances limitantes, elles sont sournoises. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas forcément compte de leur impact et de leur impact négatif. Donc, je pense que la principale cause, c'est celle-là. Et c'est aussi sociétal. C'est-à-dire que la société donne un rôle à la femme, on le sait aujourd'hui, donne un rôle à la femme de douceur, d'accueil, de... pas de prendre sa place. C'est pas le job de la femme. Le job de la femme, c'est de s'occuper de ses enfants. Bah, j'exagère volontairement pour dire que c'est plus comme ça maintenant, mais c'est encore un peu comme ça.
Il y a encore un peu quand même.
Il y a beaucoup de restes. Oui. Donc, j'ai plein d'exemples. Mais toutes ces croyances qui nous empêchent d'être nous-mêmes, moi j'adore ce mot anglais « empowerment oui. », c'est vraiment comment je suis en pouvoir, moi avec moi. Hein, quand on parlait de cet entretien, vous me racontiez que, en fait, les femmes qui venaient ici, elles s'autorisaient pas à venir. Je dis, mais oui, je veux parler.
Oui, c'est ça.
Parce que je veux dire, les femmes, il faut qu'elles se redonnent leur pouvoir. Oui, il y a le système. C'est vrai. Et je vais pas dire que c'est pas vrai. Mais si nous, on fait pas aussi quelque chose, bah, le système, il sera encore plus broyant.
Oui, c'est ça. Donc, il y a vraiment notre part aussi, hein, de...
On a
chacun
a sa part.
De responsabilité à nous. Et alors, bien sûr, nous, ce qui nous a beaucoup plus dans ton approche, Marina, c'est la manière dont tu parles justement de toutes ces choses subtiles qu'on attribue souvent aux femmes, l'intuition, la vulnérabilité, l'humanité, hein, tout simplement. Pourquoi, d'après toi, elles sont si peu valorisées en entreprise? Alors, toi qui as été dirigeante, business woman, et comment faire pour que ça change, en fait?
Alors, je pense que ces qualités qui sont associés au féminin. Quand on est une femme, on a aussi du masculin, on a aussi du yang. Et les hommes ont aussi du féminin. Bon, je pense qu'on est dans un monde de business, un monde d'hommes. Donc, pour réussir, on va prendre des codes d'hommes. On va prendre des codes du masculin. Et si on fait ça, on se perd. On se perd parce qu'on perd qui on est profondément. Mmh. Donc, on est dans ce monde-là et il va falloir effectivement lutter, entre guillemets, pour garder ce côté féminin. Et donc, pour ça, il faut être OK avec ça, soi-même. C'est-à-dire, si j'ai peur d'être dans mon féminin parce qu'on m'a dit c'est pas comme ça qu'il faut être, ben, je vais pas le faire. Et donc, je vais prendre d'autres codes et je vais m'y perdre. C'est pour ça que ce programme, il va permettre à chacun d'être qui il est, de devenir soi, avec un grand S, pour enfin pouvoir prendre sa place telle qu'elle est. Et on a toutes des places différentes.
Bien sûr.
Est-ce que j'ai répondu à la question?
Alors,
parce que je m'emballe. Donc.
Oui, non. Bah, oui, mais c'est vrai que c'est une question qui est hyper hyper complexe. Donc là, on voit le côté ben à nous les femmes de prendre notre place sans forcément aller chercher les codes masculins. Mais moi, ça me soulève une question là. Pourquoi on dirait pas la même chose aux hommes en fait?
Ah ben, on le dit aujourd'hui. On le dit, et moi ce programme aujourd'hui il existe pour les femmes, et avec Cécile qui est la créatrice de ce programme, vraiment on a à cœur de le faire aussi pour les hommes, et des hommes qui ont fait la formation Tadam me disent « Marina, quand est-ce qu'on le fait pour nous ?» Sauf qu'on peut pas tout faire, et quand on est en train de lancer ce programme en français, puisque ce programme existe en anglais depuis plusieurs années, mais on veut le faire pour les hommes, et évidemment que tout le monde a gagné à ce que ces qualités humaine, de vulnérabilité, de douceur, de bienveillance. Moi, je l'ai montré, je l'ai prouvé. Encore une fois, quand j'étais directrice générale, c'est des choses que j'ai mises en place et qui ont fonctionné. Mmh.
Ça fait écho avec... on avait reçu ici une directrice de prison qui disait que ce qu'il avait souhaité dans plusieurs situations un peu dangereuses en prison, c'était sa douceur, c'était qu'elle avait une approche différente, féminine, humaine, qui fait qu'elle a, elle a résolu en fait différents conflits grâce à son authenticité.
Bien sûr.
Et finalement, bah, ça a pu faire écho aussi à des collègues. Alors moi, j'ai une question, c'est est-ce que tu penses qu'on peut aussi être ambitieuse, légitime, influente, sans se durcir ou adopter des codes un peu masculins, tu vois, mais c'est très difficile aujourd'hui parce qu'on nous demande « girl power, prends ta place, on y va, on défonce tout ». Si j'ose le dire, mais d'un côté,
c'est dans la compétition.
Oui, tout à fait, compétition, agressivité. Comment trouver cet équilibre en fait?
C'est une question de vie, je pense. Mmh. C'est une question de toute sa vie. On va se poser ces questions-là. Je pense que pour ça, bon, faut avoir fait la paix avec soi. Ouais. Quand on a fait la paix avec soi, on n'est plus en concurrence avec personne. Hein. Et puis aussi être à la juste place et être dans ce projet. C'est le programme, c'est-à-dire je retrouve qui je suis fondamentalement, qui je peux être, et je m'engage dans un projet à impact.
Alors d'où il vient ce programme ? Donc parce que donc on a bien compris d'où te venait cet engagement auprès des jeunes adolescents. Et là, qu'est-ce qui fait que tu t'orientes plutôt vers les femmes là ? Ça date de début 2025 à peu près.
Ouais, fin 2020. Alors en fait,
donc, c'est récent.
C'est très récent. Mais c'est la même chose, c'est la même cause. C'est les talents gâchés. Moi, j'adore transformer toutes ces personnes.
À quel moment tu as le déclic, oui,
je ne sais pas.
Voilà, à quel moment tu vois qu'il y a des talents gâchés chez les femmes?
Comment est-ce qu'on passe de l'adolescent à la femme? C'est ça qui est intéressant.
Oui, on m'a posé cette question-là. J'ai dit, sans doute que j'ai grandi. Mais non, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, à un moment donné, je décide, encore pour des raisons de santé, de confier la direction générale de Tadam. Parce que quand même, c'est un investissement, c'est toute une vie, c'est tout un corps, c'est bon. Et donc, je confie la direction générale et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Hein? Est-ce que moi, j'ai une vie, une carrière, je me suis éclatée, je me suis amusée. Qu'est-ce que je fais?
Rappelons, tu as 60, combien? Quel âge aujourd'hui? Là.
Aujourd'hui, j'ai 63 ans.
Ok. Donc, à la veille
j'ai
de la retraite,
chance.
On pourrait dire, mais finalement,
oui,
plein
je me dis,
projet.
Mais peut-être que je vais être à la retraite, finalement, j'ai plein de choses à faire. Tout le monde dit, mais Marina, même pas en rêve, je vois pas comment tu peux t'arrêter. Je lui dis, moi si, peut-être, je peux m'arrêter. Mais je me pose des questions. Bon, d'abord, je me refais une petite santé. Et puis, j'appelle Cécile. Parce que Cécile, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques années. On est resté en contact. Et puis, elle me dit, mais Marina, mais moi, j'ai un programme pour les femmes. Pour les business woman. Il faut que tu fasses ce programme. Elle m'en dit pas plus. Mais je lui fais confiance.
Ok.
Et je décide de faire ce programme.
Donc ça se fait en Angleterre, hein?
Alors non, elle est basée à Aix-les-Bains.
Ah,
ça se fait en Zoom. Et mais elle a fait ce programme, elle l'a fait parce qu'elle a travaillé avec les Américains, donc elle l'a fait en anglais.
C'est un programme américain. Non, mais parce que tu disais que ça n'existait pas en France.
Non, ça n'existait pas en français.
Voilà, en français.
Donc elle est passée par une étape difficile de burn-out. Elle travaille dans un grand cabinet de conseil, et un burn-out, et elle va se soigner, entre guillemets, en Amérique du Sud. Et ce programme, c'est elle qui le crée avec ses petites mains.
Ah, d'accord.
De ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a...
Ça fait combien de temps qu'il existe, ce programme?
Il existe depuis 2019 en anglais.
D'accord. Et en français, du coup, là, c'est en
Et en français, là, en ce moment.
OK.
On l'a développé. Elle l'a développé pour moi. Mais au début, c'était pas exactement ça. On n'avait pas toutes les vidéos, on n'avait pas tout. Et donc, je commence ce programme sans savoir beaucoup ce qu'on va faire.
Ouais.
Et ce programme, ce sont des séquences. C'est sur 10 semaines. Et il y a une séquence chaque semaine avec du travail personnel qu'on doit faire. Et chaque semaine, on va se retrouver en groupe, sauf que moi, je l'ai fait individuellement parce qu'il n'y avait pas de français. On se retrouve en groupe pour partager entre femmes, encore une fois, le groupe, la force du groupe, la force des femmes,
du collectif,
qui là sont en complète tranquillité puisque c'est confidentiel et chacun va montrer sa vulnérabilité, va demander de l'aide. Donc, c'est 10 séquences, c'est 10 semaines. Chaque semaine, il y a des choses à faire et chaque semaine va préparer la semaine suivante. Et donc, moi, je fais ce programme. Et au milieu du programme, je dis à Cécile, mais c'est, j'ai retrouvé mon élan. Parce que j'avais un peu perdu mon élan.
D'accord.
Parce que j'avais une vie formidable, parce que Tadam fait partie de mes projets de vie.
Ils sont combien maintenant, Tadam, au fait? Parce que du coup, vous êtes partie de quelques personnes dans le salon. Vous êtes combien maintenant?
Aujourd'hui, il y a 650 adultes formés. Ah ouais. Il y a eu plus de 100, près de 100 000 jeunes qui ont vécu des activités Tadam. En fait, c'est comme le programme pour les femmes. Moi, maintenant, je veux le développer. Je veux que tout le monde puisse en bénéficier. Tous ceux qui n'ont pas bénéficié de Tadam et alors
avant qu'on fasse une petite pause, on a compris que tu avais accompagné beaucoup d'adolescents et là tu commences à accompagner des femmes. Quels seraient les deux beaux exemples ou les marquants de toutes ces années en fait d'accompagnement?
Des ados, par exemple?
Un ado, une femme, par exemple, ouais.
Alors, un ado, moi, je me souviens d'un jeune, vraiment en grande, grande difficulté. C'est tout au début de ta dame. Grande difficulté, et ses parents sont séparés. Et la mère me dit, on dort plus, il va se déscolariser, c'est une catastrophe. Voilà. S'il m'entend, il va se reconnaître. Parce qu'il vient faire un séminaire Tadam. Et il est considéré comme TDAH. À l'époque, pareil, je connais rien.
Oui,
mais bon,
ouais, c'est pas encore diagnostiqué.
Non, il m'explique qu'il prend de la Ritaline, mais qu'il faut que il a 14 ans. Et que s'il prend de la Ritaline, il va pas profiter du séjour parce que il est pas lui-même. Et donc, je décide de lui faire confiance. Et je lui dis, je te demanderai de reprendre de la Ritaline si je vois que ça va pas. Et toi aussi de toi-même. Et il fait une semaine formidable. Et ça change tout. Il se rescolarise. Sa mère redort, m'appelle en me disant, mais ça a tout changé. Et un jour, je le recroise et il me dit, Marina, droit dans les yeux, parce que les jeunes, ils vous parlent droit dans les yeux. Il me dit, Marina, si j'avais pas vécu à l'époque, ça s'appelait ce que je veux faire plus tard, je ne serais pas là aujourd'hui. Bon, des exemples comme ça.
Et qu'est-ce qu'il fait du coup aujourd'hui?
Je sais pas. D'accord. Ça fait presque 15 ans. Je pense qu'il est heureux, en tout cas.
Ouais. Super.
Et pour les femmes, l'exemple que j'ai, parce que quand j'ai vécu ce programme, j'ai dit, je veux que tout le monde mette toutes mes copines, ça, tout le monde le fasse, puis surtout les femmes les plus vulnérables, celles qui ont le plus vécu plein de difficultés, qui ont une confiance en elles qui est au-dessous de zéro. Et, je rencontre une femme, elle me dit, écoute, voilà, moi, je suis, c'est presque un profil type. Elle me dit, je suis cadre dans une grosse boîte internationale, tout va bien, j'ai des enfants, je suis mariée, je suis vide.
Ouais. Ah, waouh.
Fort.
Je suis vide. J'ai choisi de rester dans cette boîte. Voilà, je gagne beaucoup d'argent. C'est ça aussi. Hein. On a des vies où on gagne de l'argent.
Mais ça fait pas tout. Ouais.
Et ça fait pas tout. Et après le programme, elle s'est lancée dans un projet. Évidemment, elle a encore son boulot là pour l'instant parce qu'il y a une histoire de modèle économique. Mais elle me dit, mais voilà, je vis.
Je revis. Oui, merci beaucoup en tout cas pour ce beau témoignage. C'est le moment de faire notre dernière pause musicale et on se retrouve juste après. À tout de suite.
World, I want to leave you better. I want my life to matter. I am afraid I have no purpose here. I watch the news on TV. Abandon myself daily. I am afraid to let you see. When it falls, when it falls. But I know me, the rain it falls, when it falls. So in the seeds of love and hope, love and love. We don't have to stay stuck in the weeds. Look.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
Nous sommes de retour sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière. Et avec nous, Marina Nichelati, qui va se prêter dans quelques instants à l'interview Spotlight. Marina, es-tu prête?
Toujours prête.
C'est parti. Alors, si tu avais 16 ans aujourd'hui, qu'est-ce qui t'enthousiasmerait le plus?
Alors, si j'avais 16 ans aujourd'hui, j'aimerais qu'on m'accompagne et qu'on me dise qu'est-ce qui va faire briller tes yeux. Et je pense que quand j'avais 16 ans, déjà à l'époque, j'aimais entraîner les groupes.
Ah, d'accord, wow. Donc leader aussi.
Ah, j'étais chef de bande, oui.
Ah, okay. Là, là.
Je pourrais vous raconter, mais c'est...
C'est une longue histoire.
C'est une longue histoire.
Très bien. Alors, du coup, bah maintenant, en tout cas, actuellement, tu travailles et tu as travaillé avec les jeunes. Qu'as-tu appris, en fait, sur l'adulte que tu es devenu?
Bah, je dirais plus que les jeunes m'ont appris à être vraiment authentique. C'est-à-dire, on ne peut pas tricher avec un jeune. Il voit tout. Et il le dit.
Alors, on a Enzo qui est là, du coup, je suis face à nous. Enzo, est-ce que tu nous as sondé? Oui? Bon, alors, merci beaucoup. Ok, donc du coup, on peut pas tricher. C'est vraiment être l'authenticité.
L'authenticité est belle à voir.
Et puis, c'est une dimension essentielle aussi du leadership, hein. On parlait du leadership au féminin aussi, mais finalement.
Du leadership
en général,
hein. Et les dirigeants qui me disent, non, mais ils le voient pas, mais.
Ouais.
Vous le voyez, mais eux, ils le voient pas. Donc, vous pensez qu'ils sont plus bêtes que vous. Ouais. En fait, tout se voit.
Bien sûr.
C'est ça. Alors, si ta vie avait une bande son, Marina, ce serait quoi le morceau qu'on serait en train d'écouter maintenant?
Mais moi, ça serait une musique de joie. Une musique qui est entraînante.
Ouais.
Une musique qui dit allons-y, ça va le faire. Parce que on vit tous des moments difficiles. Moi, comme tout le monde. Mais on a aussi cette possibilité de se dire comment je regarde ce moment difficile et qu'est-ce que j'en fais.
Alors, justement, toi, dans les moments où tu doutes et où c'est compliqué, c'est quoi tes ressources?
Moi, j'ai la chance d'être très bien entourée. Et donc, je vais aller me ressourcer. Moi, je me ressource beaucoup dans le groupe. Je me ressource aussi. J'ai appris à me ressourcer avec moi. Mais la ressource, c'est vraiment d'aller faire des choses que j'aime avec les gens que j'aime. Par exemple, j'adore jouer.
Jouer à quoi?
Jouer.
Les jeux de société.
Ah oui. Ah, chouette. T'as un best-seller en tête ou pas?
Non, je les aime tous, en fait.
Non, c'est vrai.
Mais tu changes toutes les règles du Uno, tout ça?
Non, pas, je ne change pas les règles.
Oh, c'est pas drôle.
Moi, je change toutes les règles.
Oui.
Il y a des personnalités qui changent les règles. Et des jeunes qui me disent, mais Marina, tricher, c'est juste une autre façon de jouer. Non, moi, je respecte les règles. Mais j'adore jouer. J'adore tous les jeux. Ouais.
Ah, sympa. Okay.
Bon. Si tu pouvais glisser un petit mot, Marina, dans la poche de chaque adolescent, que dirait-il?
Il dirait, écoute ton cœur, il est toujours de bons conseils.
J'adore ce petit mot.
Ok. Bon, il faut le retenir, ça.
Ouais. Écoute ton cœur. C'est pour tout le monde.
Alors voilà, parce que tu vois, j'allais te dire, c'est ce que tu dirais aussi aux femmes. Écoute ton cœur.
Oui, et puis je dirais aux femmes, faites confiance à votre intuition. Bon, on m'a dit, oui, les premiers regards, tout ça. Faites confiance à votre intuition. Après, regardez. Enfin, il y a des éléments factuels, mais observez. Et surtout, c'est un talent, c'est un sixième sens. Donc, utilisez-le.
Oui, être à l'écoute de des ressentis.
De votre corps. Votre corps ne ment jamais. Oui, jamais, jamais. Votre tête, souvent. Hein. Surtout la petite voix qui vous dit, non, t'y arriveras pas.
Oui. Celle-là, on la connaît bien. Ouais. Ouais, c'est ça. Super. Si tu pouvais te transformer en un symbole pour inspirer quelqu'un, lequel choisirais-tu parmi les trois qu'on va te citer maintenant? Une étoile filante, une tasse de café ou une plante en pot?
Ah oh bah, sur une étoile filante pour faire des vœux, bien sûr.
C'est trop beau. Ok.
Bah, merci beaucoup en tout cas Marina d'avoir joué le jeu.
Merci.
Notre émission touche à sa fin et avant de la clôturer, que peut-on souhaiter à cette femme lumineuse que tu es?
de continuer de l'être.
De briller comme
une étoile. Non, je suis une amoureuse de la vie. Briller comme une étoile, je sais pas, mais je suis une amoureuse de la vie et j'ai envie de continuer à pouvoir voir la lumière et ne pas me laisser ensevelir sous les ombres qui sont là aujourd'hui.
Oui, sacré programme. Ben oui. Merci infiniment, Marina, pour ce partage plein de sincérité, d'authenticité et d'humanité. On te souhaite le meilleur pour la suite. On te souhaite de continuer à briller et à éclairer les autres. Notre émission se termine. Un grand merci à nos auditeurs auditrices de nous avoir accompagnés. Et on se retrouve sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière mardi prochain de 18h à 19h en compagnie d'une nouvelle femme inspirante. En attendant, vous pourrez retrouver l'émission d'aujourd'hui en podcast sur le site d'IDFMradio.fr, sur l'Instagram des Femmes en Lumière et sur notre chaîne YouTube. Encore merci infiniment, Marina.
Merci à vous.
À la semaine prochaine. Au revoir, Laetitia.
Au revoir.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Dans les moments importants de votre vie, vous avez besoin d'un repère solide. Que ce soit pour défendre vos droits, protéger votre famille ou accompagner votre entreprise, un avocat du barreau du Val-d'Oise est à vos côtés. Les avocats du Val-d'Oise, ce sont des professionnels formés, indépendants et à l'écoute. Que vous soyez Argenteuil, Cergy, Sarcelles ou Pontoise, il y a toujours un avocat près de vous. Retrouvez les dates et les lieux de consultation gratuite destinés aux particuliers et aux entreprises sur le site du Barreau du Val-d'Oise. Barreau du Val-d'Oise, l'expertise juridique à votre service.
Tu peux me rendre mon téléphone, s'il te plaît ? Pourquoi tu regardes mes messages ?
Ah, parce que maintenant que t'es avec tes potes, ça te gêne. Vas-y, je regarderai ce soir de toute façon.
Vas-y, vous verrez ça plus tard. Elle arrive quand Inès avec la bouffe, j'ai faim.
Attends, je regarde ça sur Snap.
Attends, tu peux savoir où elle est ? Fais voir. Mais c'est trop bien !
Mais attends, elle est au courant ?
Les violences conjugales, ça commence quand ?
Si vous pensez être victime, ne restez pas seul. Contactez le 3919.
Retrouvez-moi, Benoît, tous les 2e et 4e dimanches du mois de 23h à minuit pour Grabuge, l'émission métal et musique extrême. Partage ma passion, la musique métal. Rendez-vous des métalleux insomniaques de 23h à minuit, les 2e et 4e dimanches du mois. Grabuge pour le plaisir et bien finir la semaine et dégourdir vos oreilles. Grabuge, tous les 2e et 4e dimanches du mois sur IDFM Radio.